Bien maintenant à la présentation de notre conférencière de ce soir, Françoise Balibar. Elle est physicienne et philosophe. Elle est professeure émérite de physique à l'université de l'université Paris 7 Denis Diderot. Elle a développé une réflexion importante dans le domaine de l'histoire de la physique et de l'épistémologie. Spécialiste d'Einstein tant sur son apport de physicien que sur sa réflexion épistémologique et politique, elle a été amenée à travailler sur la théorie de la relativité ainsi que sur la physique quantique. Elle a également mené des réflexions et des travaux sur la matière ou sur le cristal. Elle a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales. Elle a également écrit plusieurs ouvrages, j'en mentionnerai quelques-uns, et notamment les derniers. Un ouvrage qui s'appelle Albert Einstein, physique, philosophie, politique, qui est paru au Seuil en 2002, et puis Einstein chez Thames & Newton en 2005. Je lui cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un échange avec le public. Je vous remercie.
Bien. Écoutez, je suis encore une fois, je vous répète, veuillez accepter mes excuses. Je ne suis absolument pas inexcusable, je ne suis pas excusable, mais je vous prie d'accepter mes excuses quand même. Bon. Alors, nous sommes en 2005 et, comme vous le savez, c'est l'année mondiale de la physique. Et pourquoi est-ce l'année mondiale de la physique? C'est parce que c'est aussi le centenaire de l'annus mirabilis, c'est une expression devenue courante qui veut dire l'année miraculeuse ou l'année mémorable, d'Einstein, 1905 donc. Année dans laquelle Einstein, au cours de laquelle Einstein, qui n'avait que 26 ans, qui était encore employé au bureau des brevets de Berne, bien qu'il ait eu une formation tout à fait performante, qui sortait de l'école polytechnique de Zurich, qui est plutôt, en tout cas à l'époque probablement, plus en prise avec la recherche et la science telle qu'elle se fait que notre fameuse école polytechnique, dont chacun sait à quel point elle recrute des élites. Einstein, donc, dans cette année 1905, a publié 5 articles, dont on peut presque dire tous les 5 ont révolutionné la physique, pour ne pas donner au mot révolutionnaire un sens qu'il n'a pas, je dirais 4 ont révolutionné la physique. Je vais d'abord commencer par rapidement vous dire de quoi il est question dans le cinquième, celui qui n'a pas révolutionné la physique. En fait, c'est la thèse d'Einstein. C'est une thèse très étonnante, elle a 23 pages. Quand je pense que samedi j'ai fait passer une thèse de 690 pages, on est un peu étonné dans les changements d'exigence, de style en tout cas. Thèse au cours de laquelle il développe une méthode de mesure des quantités relatives aux molécules, mais qui est en fait assez nouvelle par rapport à ce qui se faisait, y compris en Allemagne, qui était pourtant le lieu où tous les travaux importants se faisaient. Cette thèse, il l'a passée en Suisse, à Zurich, à l'université de Zurich, et ça ne s'était pas très bien passé, d'où la minceur du résultat final. Ça ne s'était pas bien passé, d'abord parce qu'il avait assez mauvais caractère, certainement, mais surtout parce qu'il employait des méthodes peu orthodoxes. Le résultat ne s'est pas fait attendre, puisque les 4 articles qu'il a tirés en pratiquant cette méthode, qui est aussi une conception du monde, comme je vais tenter de l'expliquer, eh bien, eux sont des articles à proprement révolutionnaires. En tout cas, c'est moi qui les déclare révolutionnaires, je ne suis pas la seule, c'est nous qui les déclarons aujourd'hui révolutionnaires. Einstein, lui, n'appelait révolutionnaire que l'un d'entre eux. C'est celui qui porte un nom un peu bizarre, sur un point de vue heuristique, concernant l'émission et l'absorption de lumière. Alors, bien malin, qui peut voir ce qui se cache derrière tout ça? En fait, le résultat auquel il aboutit, à la suite du développement de ce point de vue heuristique, alors heuristique, c'est un terme qui veut simplement dire que on indique une voie de recherche, on ne mène pas la recherche de façon rigoureuse, comme il le faudrait, selon les lois de l'exposition scientifique, mais on est à peu près sûr, c'est pour ça qu'on le publie, c'est dans cette direction qu'il y a quelque chose à trouver. Et le quelque chose qu'il avait trouvé, c'était que, sous certains rapports, j'y reviendrai, la lumière que tout le monde, jusqu'alors depuis Fresnel, considérait comme une onde, et conception qui avait été renforcée par le développement dans les années 1860 évidemment, de la théorie de Maxwell qui avait fait de la lumière une onde électromagnétique, c'est-à-dire une combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique, même si ça ne dit pas ce que ça veut dire. On voit bien qu'il s'agit d'une onde, en tout cas, donc quelque chose de continu qui se propage de façon frontale. Eh bien, lui, Einstein, explique que, sous certains rapports, qui sont d'ailleurs des rapports thermodynamiques liés à la température, la lumière devrait être aussi, et il insiste sur le aussi, considérée comme un ensemble de particules, ce que plus tard, en 1922, on appellera des photons, et que lui, en 1905, appelle simplement des quanta de lumière. Le mot quanta en allemand n'a rien de savant. Il est un peu, évidemment, c'est pas un mot qu'on emploie pour, quand on va chez son épicier, on lui demande pas un quanta de beurre, mais c'est une, ça veut dire une quantité donnée, insécable, et ça n'a pas le côté savant que lui donne son origine latine en français. Ça, c'est le premier article dont il dit qu'il est révolutionnaire, et il est paru en mars 1905, ce qui veut dire qu'il a été envoyé en fin janvier 1905. Il est paru dans la plus grande revue allemande de l'époque, qui s'appelle Annalen der Physik, et à cette occasion, il faut rendre hommage à l'université allemande avec toutes les rigueurs, la rigueur et la rudesse et aussi le sens de la hiérarchie qui était le sien, d'avoir publié, non seulement un, mais comme vous allez voir plusieurs, articles envoyés par un inconnu total, qui n'avait même pas le support de son directeur de thèse, parce que tout ceci s'est fait en dehors des travaux de thèse d'Einstein. Il y travaillait le soir après et pendant le week-end, après avoir accompli son travail au bureau des brevets de Berne. Ce dont d'ailleurs il ne s'est jamais plaint, il a dit qu'il n'aurait jamais trouvé toutes les choses qui ont fait sa gloire s'il avait été occupé à un poste universitaire. Il aurait croulé, disait-il, et c'est toujours vrai, même encore plus vrai, sous les tâches administratives et d'enseignement, et il n'aurait pas eu la liberté d'esprit qu'il avait en étant un outsider pour développer ses propres théories. Donc, au passage, il faut donc rendre hommage aux gens qui dirigeaient cette revue, qui ont tout de suite compris que ce n'était pas une fantaisie absurde, bien que ça soit révolutionnaire. Einstein lui-même le reconnaît. Et les quelques mots que j'ai dit permettent de comprendre pourquoi, puisque c'était présenter une vision totalement non orthodoxe de ce qui occupait tout le monde à l'époque, la lumière. Cet article a été suivi d'un autre qui porte sur le mouvement brownien et qui est plus directement en rapport avec son travail de thèse. Je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui de cet article, bien que ça soit le plus subtil, d'une certaine façon, de ce qu'Einstein a écrit. C'est un article sur le mouvement brownien. Le mouvement brownien, vous savez ce que c'est ce mouvement des pollens, des petites particules en suspension dans l'air en général, que l'on voit par exemple dans un rayon de soleil en forêt, mouvement totalement désordonné, qui avait été observé pour la première fois par un physiologiste nommé Brown, d'où le nom de mouvement brownien, et Einstein explique ce mouvement brownien par quelque chose qui pouvait paraître aussi révolutionnaire à l'époque, sauf que quand même beaucoup de gens étaient convaincus de la solidité de l'hypothèse sur laquelle il s'appuie, à savoir ce qu'on appelait encore à l'époque l'hypothèse atomique. On a peine à croire qu'il y a 100 ans, les atomes n'existaient pas pour tout le monde, pour tous les physiciens en tout cas, et que cet article d'Einstein a permis d'asseoir définitivement la réalité des atomes. C'est à partir de cet article et des travaux de Perrin, développés dans les années 8-9 pour vérifier les prédictions d'Einstein, que plus personne n'a osé dire que les atomes n'existaient pas, que c'était une simple hypothèse. Le raisonnement d'Einstein est simple. Il dit ce que nous voyons, ce sont ces graines de pollen. Nous ne pouvons pas voir autre chose, même avec un microscope. À l'époque, on ne voyait pas les atomes. On ne les a vus, et encore de façon indirecte, avec un microscope électronique que dans les années 1980. Donc, ce que nous voyons, ce sont les mouvements de ces grosses particules qui est provoquée par leur choc avec de beaucoup plus petites que nous ne voyons pas, les atomes ou les molécules. À cette époque, la terminologie n'était pas entièrement déterminée. Et de ce mouvement, et en particulier, c'est pour ça que je dis que c'est le plus subtil des articles qu'il a écrit en 1905, de l'écart par rapport aux valeurs moyennes. C'est-à-dire que ce mouvement est totalement désordonné, donc on calcule des valeurs moyennes de position, de vitesse, etc. Et c'est les écarts par rapport à ces valeurs moyennes qui disent quelque chose de la physique sous-jacente. C'est quelque chose pour lequel Einstein est passé maître au fil des années, mais d'une certaine façon, on peut considérer qu'il l'était déjà à peine ses études finies, puisqu'en 1905, il y avait 4 ans, pas plus, qu'il les avait terminées. Alors, je n'en parlerai pas énormément, et je passe tout de suite à celui pour lequel, évidemment, il est le plus connu, qui est l'article publié en septembre 1905, toujours dans Annalen der Physik, et qui porte la théorie, qui est l'article princeps de la théorie de la relativité restreinte, qui là aussi porte un titre qui ne laisse pas supposer ce qui est à l'intérieur. Ça s'appelle électrodynamique des corps en mouvement. Mais, comme je le développerai tout à l'heure, à l'époque, il était tout à fait normal d'appeler un article portant sur ce sujet selon ce titre. Donc, c'est l'article princeps de la relativité restreinte, dans lequel il explique qu'il va falloir changer nos conceptions d'espace et de temps. C'est surtout cela qu'on en a retenu. Pour lui, c'était surtout mettre un point final, justement, à cette entreprise qui avait commencé dans les années 60 du siècle précédent avec Maxwell, et qui était une entreprise d'unification. Car Maxwell avait commencé par unifier ensemble le champ, je ne vais pas trop insister sur ce que c'est que le champ, mais le champ électrique et le champ magnétique. Le champ magnétique, tout le monde sait ce que c'est, le champ électrique aussi, qui était considéré avant Maxwell comme deux entités différentes n'ayant aucun rapport entre elles. C'est Maxwell qui les a unifiés en un seul ensemble dans lequel le champ électrique se transforme en champ magnétique lorsqu'il y a des variations au cours du temps et inversement, pour former un seul individu, si on peut dire, le champ électromagnétique. Et il avait même poussé un peu plus loin l'unification, puisque, comme je l'ai dit, il avait montré que la vitesse de propagation de ce champ électromagnétique, puisque c'est une onde, ça se propage, était égale à la vitesse de la lumière, d'où il en avait déduit que la lumière était elle-même une onde électromagnétique. Donc il avait unifié l'optique, et à partir de là on parle d'optique électromagnétique, à l'intérieur de la théorie électrique et magnétique, électromagnétique. Et pour Einstein, j'expliquerai pourquoi, cet article qu'il publie en septembre 1905 est un point final à cette œuvre d'unification. Point final provisoire, puisque ensuite il a essayé et il a réussi en partie, même au-delà de toute espérance dans certaines parties, à poursuivre son entreprise d'unification. Cet article est suivi immédiatement d'un tout petit, de même pas 2 pages, qui s'appelle inertie de l'énergie, et qui se termine par la fameuse équation, non pas par E égale MC2, parce que c'est pas comme ça qu'il l'a écrit, mais delta E égale delta MC2, où delta E est l'énergie, c'est-à-dire, comme il le dit, le contenu énergétique d'un système, delta M, donc delta E, delta en physique, ça signifie toujours une variation, donc delta E, c'est la variation de contenu énergétique d'un système qu'il relie à delta M, une éventuelle variation de masse. À l'époque, il n'en avait pas d'exemple présent à l'esprit, sauf une allusion qu'il fait aux travaux de Marie Curie, donc à la radioactivité, multiplié par C2, C étant la vitesse de la lumière, qui, bon, depuis septembre, d'ailleurs depuis son premier article, était devenu une constante fondamentale de la lumière, mais qui surtout, pour ce qui nous intéresse, est énorme, 300 000 km par seconde, je dis bien par seconde, pour s'en donner une idée, la lumière met une seconde pour aller de la Lune à la Terre. Bon, ceci porté au carré, évidemment, ça fait un facteur de conversion entre masse et énergie, ou entre énergie et masse, plus exactement, énorme. Ce qui veut dire qu'une toute petite variation de masse, comme il s'en produit dans les réactions radioactives, peut donner une grande variation d'énergie. C'est au fondement de l'énergie nucléaire, de la bombe atomique, et je passe tout de suite sur ce point pour qu'on ne m'interroge pas dessus. Einstein n'est évidemment pas responsable de la bombe atomique, en tout cas pas par E égale MC2. Il a découvert une propriété de la nature, et avant qu'on arrive en 1945 à fabriquer la première bombe atomique et que les Japonais la reçoivent malheureusement sur leur ville, il a fallu développer d'une part la physique théorique, et surtout tout un développement instrumental, technologique et expérimental qui a pris 40 ans justement. Donc il y a un monde entre les deux. C'est comme si on le tenait responsable du laser. Il a donné le principe du laser, mais personne ne songe à penser qu'il est l'inventeur du laser. Bien, alors je vais me concentrer sur les deux articles que je trouve principaux, celui qu'il a appelé lui-même, celui de Mars révolutionnaire, et celui de septembre, celui sur la théorie de la relativité. Pendant longtemps, on a considéré que c'était deux contributions séparées, l'une à ce qui allait devenir la mécanique quantique et l'autre à la théorie de la relativité, qui d'ailleurs avait donné deux branches complètement différentes du savoir, la mécanique quantique et puis la théorie de la relativité de l'autre part, qui sont les deux branches de la physique dite moderne, comme on disait au XXe siècle, ça commence à tâter évidemment maintenant. Et il n'y avait pas un rapport entre les deux. Et de fait, quand on les lit, on a l'impression quand même que ces deux branches de la physique totalement séparées, il n'est fait aucune référence de l'un à l'autre. On peut, quand on regarde bien et en cherchant, en sachant ce que l'on cherche, voir qu'il y a des allusions, il y a une allusion dans celui de Mars à ce qui viendra en septembre, et une autre allusion de septembre à ce qui a été dit en mars. Mais c'est extrêmement caché et on a vraiment l'impression de deux travaux séparés. Il est évident qu'il ne peut pas en être ainsi. On ne peut pas imaginer que quelqu'un travaille en vue, comme il l'a toujours dit, une unification de la physique sur deux parties de la physique sans avoir en tête que ces deux avancées convergent vers un même but. Et c'est ça que je voudrais expliquer aujourd'hui, en quoi l'article de mars 1905 prépare celui sur la relativité, ou autrement dit, en quoi l'article sur la relativité qui a fait la fortune d'Einstein n'aurait pas pu exister sans celui de mars 1905. Et évidemment, ce faisant, je viendrai à ce qui échauffe beaucoup les esprits en ce moment, mais moi j'ai vu ça déjà il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, à savoir qui d'Einstein et de Poincaré a découvert le premier la théorie de la relativité. Je vous livrerai mon point de vue, qui est d'ailleurs le point de vue majoritaire, ce qui ne veut pas forcément dire que ce soit le point de vue juste, parce que c'est le point de vue de l'establishment, je suis prête à reconnaître tout ça, mais j'essaierai de l'argumenter avec des arguments qui ne relèvent que de la raison pure. Mon premier point, c'est donc, et par exemple, si je voulais chercher des gens avec des noms qui m'épaulent dans cette vision des choses, je ferai référence à Penrose, qui encore dans un article récent, puisque c'est l'année où tout le monde parle d'Einstein, expliquait qu'on avait été complètement aveugle de ne pas voir que ces deux travaux avaient entre eux un rapport absolument intime. Alors, je reviens sur le premier. Le premier, c'est donc l'idée que la lumière n'est pas forcément une onde, qu'on aura, certes, dit Einstein, le point de vue ondulatoire explique énormément de choses, et on n'est pas prêt d'y renoncer, je ne suis pas prêt à y renoncer, dit-il, mais je voudrais présenter un certain nombre de considérations au terme desquelles il m'apparaît qu'on peut aussi la considérer comme un ensemble de particules. Il ne met pas de guillemets, mais il faut les mettre quand même, surtout à cause de la suite de l'histoire. Le premier paragraphe est un paragraphe qui, pour un jeune physicien, ça, on ne verrait plus ça aujourd'hui, est étonnamment philosophique. Einstein commence par dire « Il y a dans notre conception de la physique une profonde division. Nous considérons d'un côté la matière comme faite de particules, c'est-à-dire d'objets localisés dans l'espace et dans le temps, qui sont susceptibles, au cours du temps, de suivre une trajectoire qui, par conséquent, relève du discontinu. Et de l'autre côté, nous considérons la lumière comme relevant du continu, nous la décrivons comme une onde qui se propage, qui occupe en principe tout l'espace, en tout cas tout l'espace avant qu'il lui arrive des choses, et qui a toujours existé et existera toujours. C'est le principe théorique de ce que c'est qu'une onde en physique. Or, dit-il, la lumière est produite par la matière, et la matière absorbe la lumière. Jusque-là, ce n'est pas nécessaire d'avoir été à l'école polytechnique pour dire des choses comme ça. Or, comment se fait-il que du continu puisse venir du discontinu, et du discontinu être absorbé, donc intégré, à du continu? Quand on parle de continu, évidemment, il faut bien voir que ce qu'Einstein entendait, c'était le vrai continu mathématique, c'est-à-dire non pas l'idée que l'on se fait du continu comme, par exemple, ce que l'on voit du ciel quand en avion on survole le Sahara, qui sont en fait des grains de sable discontinus, mais que l'on voit que sous forme continue. Là, il s'agit d'un vrai continu, c'est-à-dire sans aucune possibilité de discontinuité, d'introduire la moindre discontinuité. C'est le continu mathématique, et les ondes, qui étaient donc la représentation mathématique de la lumière, relevait totalement du continu, était décrit par des fonctions continues, fonctions mathématiques continues. J'insiste là-dessus parce qu'il ne faudrait pas croire que les mathématiques, même si je vais vous présenter les choses de façon uniquement avec des mots, sont absentes de tout ça. Et Einstein dit, comment expliquer donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas expliquer comment du continu peut tout d'un coup cracher du discontinu, et comment du discontinu, la lumière peut... Non, exactement, excusez-moi. Comment du discontinu peut produire du continu, c'est-à-dire de la matière faite d'atomes, produire de la lumière continue, et comment du continu la lumière peut être absorbée par la matière, par les atomes qui relèvent du discontinu. Donc, en somme, il y a là un mariage des contraires, car quand quelque chose appartient au continu, il ne peut pas appartenir au discontinu, et vice-versa. Et donc, il note cette difficulté totalement philosophique, à la limite logique, et il dit que, justement, il va y donner un point de vue qui permette, en tout cas, justement, non pas d'expliquer comment du continu devient du discontinu du continu, mais que la matière devrait, la lumière, pardon, devrait aussi être vue comme la matière, c'est-à-dire comme un ensemble fait de particules, donc le discontinu. Et pour ça, il s'appuie sur une théorie dont apparemment l'Allemagne avait le privilège, qui est la mécanique statistique. Je dis, vous allez voir, toute mon intervention va un peu tourner autour de la différence qu'il y a entre la France et l'Allemagne, différence qui à l'époque était une véritable haine politique. Nous sommes en 1900, c'est après 1870, 10 ans avant 1905, donc 9 ans avant 1914. On peut dire que c'est l'ignorance et la haine de part et d'autre, et on ne saurait à qui attribuer la palme. Et par ailleurs, je n'insisterai aussi là-dessus, ce n'est pas la même chose de réfléchir en allemand et de réfléchir en français. Donc, la théorie de la mécanique statistique est une théorie qui avait surtout été développée par les Allemands. C'est une théorie statistique, comme le nom mécanique statistique l'indique, et mécanique, c'est-à-dire relevant des particules qui ont une trajectoire soumise aux lois de Newton, etc., comme le mot mécanique l'indique. Statistique parce que l'hypothèse fondamentale, c'est que la matière est faite d'un nombre énorme, et d'ailleurs ce nombre, on sait que dans un gramme de matière, il y a quelque chose comme 10 puissance 23 atomes, donc c'est énorme, et donc le moindre gramme de matière est fait d'un nombre énorme d'atomes. Certes, il n'est pas question d'aller regarder chaque atome et de lui appliquer les lois de Newton et de voir quelle est sa trajectoire, mais on peut, sachant que individuellement les atomes sont soumis aux lois de Newton, et que ça, c'est des lois bien établies sur lesquelles personne ne pourra opposer quoi que ce soit, eh bien, faire usage du fait qu'on a un si grand nombre pour appliquer les méthodes de la statistique. D'une certaine façon, c'est pratiquement le seul emprunt de la physique aux sciences humaines, car, comme on l'a montré depuis, c'est les premiers fondateurs dans lesquels on retrouve Maxwell de la mécanique statistique. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est une science totalement allemande, puisque Maxwell était écossais, donc britannique. Eh bien, Maxwell s'est beaucoup inspiré des travaux des démographes à l'époque, c'est-à-dire dans les années 1850, qui évidemment avaient développé des méthodes statistiques. Donc, en introduisant les méthodes statistiques de calcul de valeur moyenne, d'écart quadratique moyen, c'est-à-dire d'écart par rapport à la valeur moyenne, etc., et en faisant reposer cette introduction des statistiques sur quelque chose de parfaitement bien connu, les lois de Newton auxquelles obéissent les atomes en nombre immense qui constituent la matière, eh bien, il est possible d'arriver à un certain nombre de résultats qui sont les mêmes que ceux auxquels arrive la thermodynamique. Alors, la thermodynamique, c'est une science qui a été développée au XIXe siècle. Les fondateurs, entre autres, c'est Carnot, puisque le second principe est antérieur au premier principe, donc c'est le début des années 1800. Et c'est une théorie qui explique comment évolue la matière, comment se font les changements d'apparence et d'état de la matière selon la température, la chaleur que l'on fournit au système, etc. Donc c'est une théorie de la chaleur, de la température, et le résultat principal d'ailleurs et fondamental, c'est que ce que nous appelons la température, en fait, c'est une agitation désordonnée des molécules. Et on dit toujours maintenant aux étudiants, imaginez-vous que augmentation de température, ça veut dire agitation de plus en plus forte des constituants ultimes de la matière. Donc, c'est par ce biais-là que le mouvement des particules et la température se trouvent reliés. Et cette théorie a connu des succès absolument prodigieux, parce que quasiment toute la thermodynamique, y compris les principes de la thermodynamique, dont le second principe, peuvent être retrouvés à partir de cette hypothèse atomique, puisqu'on appelait ça encore une hypothèse atomique, à laquelle on applique les lois de Newton au niveau individuel et la statistique au niveau global. Alors, Einstein, lui, avait été très impressionné par les succès de la mécanique statistique. Il faut dire aussi, et c'est là que se marque le fait qu'il était passé par l'école polytechnique, qu'elle lui avait été enseignée dans tous ses détails, dans toutes ses avancées les plus récentes, car, comme je l'ai déjà dit, l'école polytechnique de Zurich, parce qu'elle avait récupéré un tas de professeurs qui avaient été mis à la porte dans les années 48, professeur révolutionnaire, comme professeur pour cette école qui venait de se fonder en Suisse, eh bien, avait un enseignement qui était largement plus moderne que celui de la plupart des universités, y compris les universités allemandes les plus réputées. Donc Einstein était parfaitement au courant de ça. Et le héros, en dehors de Maxwell, de cette partie de la physique, c'est Boltzmann, Ludwig Boltzmann, qui s'est suicidé en 1905. Une drôle de date pour se suicider, d'une certaine façon, quand on est physicien, mais il devait avoir ses raisons, qui avait vraiment développé tous ces résultats extraordinaires dont je parle. Eh bien, ils ont tous été développés par Boltzmann ou par les élèves de Boltzmann. Et quand il était jeune, Einstein, en dehors même des cours qui l'obligeaient à apprendre la mécanique statistique, lisait Boltzmann dans le texte, le procurait à la bibliothèque, réfléchissait, etc. Car, comme vous le savez probablement aussi, Einstein avait commencé à être physicien, non pas à la fin de ses études, mais très tôt. Il dit, et il n'y a pas de raison de ne pas le croire, que déjà quand il avait 16 ans, il se posait une question qui va être essentielle pour résoudre le problème qui va déboucher sur la théorie de la relativité, à savoir si je chevauche une onde, puisque la lumière était une onde, qu'est-ce que je vois ? J'y reviendrai. Pour le moment, revenons à la mécanique statistique. Donc, ce qu'il fait dans cet article, c'est qu'il considère un problème très particulier sur lequel les physiciens se cassaient la tête depuis déjà au moins 10 ans, en particulier les expérimentateurs, mais aussi les théoriciens, qui est le problème dit du corps noir. En fait, c'est le problème de la couleur, bien que ça s'appelle le problème du corps noir, le problème de la couleur des corps qui sont chauffés. Vous savez sûrement, on le dit en général, je n'ai pas l'expérience directe, mais que par exemple un sidérurgiste sait à quelle température est le bain de fusion du métal qui est en fusion, simplement à la couleur. Et de fait, un corps chauffé émet de la lumière et la couleur, donc la longueur d'onde ou la fréquence principale de la radiation émise, la majoritaire, enfin ce qui représente le centre de la distribution, dépend de la température. Et c'est cette dépendance que les gens étudiaient dans les laboratoires depuis 4 ou 5 ans et sur laquelle Planck, qui était le grand représentant de la physique au tournant du siècle, d'ailleurs celui qui probablement a vu tout de suite que les articles d'Einstein n'étaient pas, avaient beau être des articles d'un inconnu, ce n'était pas du travail d'amateur, Planck en 1900 avait été obligé pour donner une théorie. Et en 1900, pour lui, la lumière était une onde. Ce n'est qu'en 1905, par cette hypothèse révolutionnaire, qu'elle est devenue autre chose. Mais en 1900, il avait tenté d'expliquer ce phénomène et de retrouver par une fonction la loi de distribution de la couleur ou de la longueur d'onde en fonction de la température. Et pour y arriver, il avait été obligé, dans un acte désespéré, je le cite, de supposer que l'énergie que tout le monde pensait représentée par une fonction continue, et représentée par une fonction continue au sens mathématique du terme, eh bien, devait s'échanger de façon discontinue. Et ça, évidemment, ça allait contre tout son être. C'est pourquoi il dit que, dans un acte de désespoir, il avait été obligé de faire cette hypothèse qu'il ne pouvait absolument pas justifier et dont il constatait simplement que, si on la faisait, on trouvait bien une fonction qui coïncidait avec le spectre observé par les expérimentateurs. Alors, Einstein reprend la chose sur de nouveaux frais. Lui, il établit tout de suite un parallèle entre il reprend ce problème du corps noir, non pas comme un problème d'électromagnétisme, comme l'avait fait Planck, mais comme un problème de thermodynamique. Or, il y a une fonction essentielle en thermodynamique qui est l'entropie. L'entropie, c'est assez compliqué de dire ce que c'est, il me faudrait beaucoup de temps, mais c'est une fonction très importante en thermodynamique dont la mécanique statistique avait établi qu'elle mesure le plus ou moins grand désordre d'un système, c'est-à-dire que l'entropie d'un gaz où les constituants élémentaires se répartissent un peu n'importe comment et ont des mouvements totalement aléatoires est plus grande que pour un corps solide où les atomes sont comme des soldats alignés à la parade. Et donc c'est un concept qui mesure l'ordre ou le désordre, et Boltzmann avait établi une célèbre relation entre l'entropie qu'on appelle S et la probabilité de trouver une particule dans un endroit. Vous comprenez bien que cette probabilité elle est d'autant plus petite que le système est plus désordonné, puisque il n'y reste pas, la particule n'y reste pas. Et cette formule, elle s'écrit K, qui est la constante dite de Boltzmann, c'est une constante universelle, logarithme, bon, c'est une fonction comme une autre, de W, et W, c'est la probabilité, c'est Wahrscheinlichkeit en allemand, Wahr, ça s'écrit W-A-H-R, et donc, c'est ça que ça veut dire. Alors, Einstein, lui, d'habitude, on utilisait la formule de Boltzmann pour calculer l'entropie connaissant la probabilité que l'on peut calculer, par exemple la probabilité pour qu'il y ait 3 fois un 6 en jetant un dé sur je ne sais pas combien de coups, etc. Lui, il la prend à l'envers. Il dit... je vais calculer la probabilité, plus exactement, je pars de l'entropie et je vais en déduire la probabilité. Et de la probabilité, je vais en déduire un renseignement sur l'état physique du système auquel je m'intéresse. Et il s'intéresse au corps noir pour lequel on avait des mesures qui permettaient de calculer l'entropie à l'aide des fonctions thermodynamiques, puisque tout ça avait été abondamment développé. Donc il connaît l'entropie de ce corps noir dans un certain changement d'état, c'est-à-dire quand on change son volume, quand on met le corps noir, c'est-à-dire un corps chauffé, dans une enceinte de volume V, on diminue le volume, on connaît, par les calculs de ses prédécesseurs, quelle est la variation d'entropie. Eh bien, partant de là, il en déduit la forme de la probabilité. Alors, de la probabilité de quoi ? Eh bien, de la probabilité de l'état de ce corps noir. Et il trouve que cette probabilité, elle a exactement la même forme que celle que l'on trouve toujours en calculant, que l'on trouve quand on calcule justement l'entropie d'un système qui est équivalent par certains côtés au corps noir, c'est-à-dire une boîte de volume V que l'on va réduire à un volume plus petit et qui ne contient que des atomes. Or ça, c'était un problème, c'est toujours d'ailleurs un problème de Bac plus 2, calculer la probabilité pour qu'une particule se trouve dans un volume réduit alors qu'elle avait plus de possibilités auparavant. On voit tout de suite que c'est le rapport des deux volumes. Pour qu'il y ait n particules là-dedans, il est facile de voir que c'est le rapport des volumes élevé à la puissance n, n étant le nombre de particules. Eh bien, calculant cela, on en avait déduit la forme de l'entropie. Lui, Einstein, pour donc ce système matériel de matière. Lui, Einstein, il change de système, il prend un système qui n'est pas matériel, qui est de la lumière. Il a des mesures qui lui permettent de calculer l'entropie et il en déduit la probabilité. Et cette probabilité, il s'aperçoit qu'elle est aussi de la forme V sur V0, enfin le rapport des volumes, à la puissance de quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, avec en termes modernes, c'est le rapport de l'énergie contenue dans le corps noir sur un facteur qui contient une constante, enfin, et puis multiplié par la fréquence de la lumière qui est émise par ce corps noir. Autrement dit, E, l'énergie, sur H, H étant la constante en question, nu la fréquence. Et, bon, il dit, ce que je trouve admirable comme confiance dans la possibilité des mathématiques de parler le langage du réel, si on peut dire, il dit cette équivalence mathématique, c'est-à-dire que on puisse avoir la même forme de l'entropie, la même forme pour la probabilité, ne peut pas être fortuite. Il faudra de toute façon l'expliquer. En tout cas, l'explication la plus simple, c'est que là où j'ai E sur HU, ce fameux rapport-là, en puissance du facteur rapport des volumes, qui, du côté de la matière, apparaît comme N, eh bien, ce E sur HU, le plus simple, c'est de supposer que c'est un nombre, un vrai nombre. Et donc, que l'énergie de la lumière est faite de grains HU, et qu'il y en a N dans la boîte. Et il dit, ceci permettrait d'expliquer un certain nombre de phénomènes que l'on a observés récemment. On venait juste d'observer l'effet photoélectrique, c'est pourquoi on a longtemps dit que l'article de mars 1905 était un article sur l'effet photoélectrique. C'est totalement faux. L'article de mars 1905, c'est un article avec un objectif bien particulier qui était de réduire cette division entre le continu et le discontinu en faisant apparaître justement que la lumière, par certains côtés, en particulier donc dans ses rapports avec la température et la chaleur, présente des caractéristiques totalement théoriques, certes, mais fondées sur des mesures expérimentales qui sont incitent à penser que son énergie n'est pas une fonction continue, mais est faite de grains discontinus. Alors, pourquoi est-ce que tout ça, ça lui importait? Lui qui, depuis, je l'ai dit tout à l'heure, depuis qu'il avait 16 ans, se posait des questions qui ont tout rapport avec la théorie de la relativité, à savoir, qu'est-ce qui se passe quand chevauchant une onde électromagnétique ou une onde de lumière, je regarde le monde autour de moi, comment m'apparaît-il? Puisque sur cette onde, il est supposé aller à la vitesse de la lumière qui vient des autres objets, soit vers lui, soit derrière lui, à quelle vitesse va-t-elle? Va-t-elle à deux fois la vitesse de la lumière ou zéro fois la vitesse de la lumière, comme on pourrait le croire d'après l'addition habituelle des vitesses, qui fait que quand vous marchez à 2 km à l'heure dans un train qui va à 200 km à l'heure, par rapport au remblai, vous marchez à 202 km à l'heure, à condition d'aller dans la direction du train. Et il se disait, est-ce que je verrai le monde stationnaire, que je ne verrai rien, puisque aucune vitesse, rien ne pourrait m'entrer dans l'œil, puisque j'avancerai en même temps que ce qui me vient en face. Donc, c'était depuis déjà très longtemps, il se posait le problème de la composition des vitesses, en somme. Et donc un problème relatif à la lumière. Et c'est pour ça aussi qu'on aurait pu plutôt s'aviser de ce que les deux articles, celui de mars et celui de septembre, avaient de grands rapports entre eux. C'est que, en fait, tous les deux portent sur la lumière. Or, Einstein, il avait abondamment étudié tout ce qui était publié sur la lumière, et en particulier tout ce qui avait été publié par Lorentz, qui était un physicien hollandais, et par Poincaré, qui était le grand physicien mathématicien, le génie du siècle. Il faut pas l'oublier, même s'il était français, en Allemagne, on en savait quelque chose. Et donc, il avait lu tout ça, et il retrouvait là des questions qui sont analogues à celles qu'il se posait dans ses termes non scientifiques quand il avait 16 ans. Et tout ça l'avait convaincu que du côté de la lumière, il y avait un problème. Et c'était d'ailleurs, il n'était pas le seul à être convaincu de ça, puisque les autres aussi en étaient convaincus. Mais le problème, d'ailleurs, il s'était aperçu au cours de ses études qu'il pouvait prendre une forme plus formalisée, plus formelle, qui est la suivante. La mécanique, c'est-à-dire la théorie de la matière, depuis Galilée, c'est-à-dire depuis que la physique moderne existe, repose sur un principe qui a été énoncé pour la première fois par Galilée, qu'on appelle le principe de relativité, et qui dit, je prends les termes même de Galilée, que si vous vous embarquez sur un navire avec des papillons et que vous regardez le vol des papillons à quai, pendant que le navire ne bouge pas, eh bien, vous voyez qu'ils vont de ci, de là, avec la même aisance vers l'avant ou vers l'arrière du bateau, à droite, à gauche, etc. Maintenant, vous regardez les mêmes papillons pendant que vous voguez vers Alep, c'est-à-dire vous traversez la Méditerranée, à condition qu'il n'y ait pas de soubresaut, autrement dit, traduit en termes un peu plus abstraits, à condition d'aller en ligne droite à vitesse constante, qu'on appelle un mouvement de translation uniforme. Donc, sur le bateau en mouvement de translation uniforme par rapport au quai d'où il est parti, de Gênes ou de Venise, eh bien, vous regardez le mouvement et vous constatez que les papillons vont de la même façon vers l'avant et l'arrière de la proue du bateau, que les petits poissons que vous aviez embarqués également en même temps, qui sont à fond de cale, ne font pas plus d'efforts pour aller vers l'arrière du bateau que vers l'avant du bateau, bien que le bateau avance. Bref, que les mouvements sont les mêmes, que ce soit par rapport à un référentiel que l'on considère comme fixe ou par rapport à un autre que l'on considère en translation uniforme par rapport au premier. J'appelle référentiel justement quelque chose par rapport à quoi on mesure les distances, les temps aussi à l'époque, on ne savait pas encore qu'il y avait un problème, les distances et les vitesses aussi, parce que les papillons, et par rapport à Venise, eh bien, ils ont leur vitesse propre plus la vitesse du bateau, même si les deux ne sont pas comparables en ordre de grandeur. Donc, vous voyez que ce problème d'addition des vitesses, c'est un problème qui est lié à la relativité depuis le départ. Sauf que ce n'était pas un problème, c'était les choses étaient comme ça. Bon, là-dessus, la mécanique s'est développée. Newton, sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir, a développé une théorie qui était fondée sur le principe de relativité de Galilée, autrement dit, qui ne contredisait pas ce principe. Ce principe, il dit en somme que que le mouvement, si vous ajoutez une vitesse à quelque chose, ça ne change pas fondamentalement son mouvement, à condition que ce soit une vitesse de translation uniforme. Celle du train quand on prend l'image du train, celle du bateau quand on prend l'image du bateau. Et autrement dit, que les choses se passent dans un référentiel en translation uniforme par rapport à un autre, de la même façon que par rapport à cet autre. Ceci, nous en avons une expérience sensible, très nette, avec les voyages en avion. Quand l'avion va à vitesse constante, eh bien, l'hôtesse n'a pas calculé la trajectoire, l'angle sous lequel elle va attaquer votre tasse pour pouvoir verser du café. Justement, dès que l'avion ne va plus à vitesse constante, soit parce qu'il descend, parce qu'il monte, parce qu'il tourne, parce qu'il y a un trou d'air, eh bien, immédiatement, tout s'arrête, parce que justement, rien n'est plus prédictible. Ce n'est plus comme sur Terre. Mais tant qu'on est à vitesse constante, eh bien, les choses, en tout cas pour ce qui est du mouvement des choses, du liquide dans votre tasse, se passent de la même façon que ce soit dans votre avion qui va à 1000 km à l'heure, ou bien à terre, chez vous, ou même dans l'avion pendant qu'il n'a pas encore décollé. Donc, c'est le principe de relativité sur lequel repose toute la mécanique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vers 1860, avait été développée par Maxwell la théorie de l'électromagnétisme. C'est une théorie absolument merveilleuse. Moi, quand j'étais enseignante, puisque maintenant je suis émérite, enseigner l'électromagnétisme, c'était vraiment le bonheur. C'est une théorie qui se développe, qui est parfaitement rationnelle, les choses se recoupent, se revivent. Enfin, c'est merveilleux. Théorie non seulement merveilleuse du point de vue de celui ou celle qui l'enseigne, mais aussi par la précision de ses prédictions, car à peine était-elle née qu'on a fait des expériences sur les expériences de Hertz, d'où sont nées les ondes hertziennes, donc la radio, etc. Et donc vous voyez toutes les implications techniques que cela suppose. Et toutes les prédictions de cette théorie sont d'une précision absolument phénoménale. On fait mieux maintenant, mais jusque dans les années 50, on ne faisait pas mieux. 50, 1900. Et donc cette théorie-là, il se trouve, et Maxwell en était parfaitement conscient, que elle n'obéit pas au principe de relativité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire par là que si vous établissez comment se transforment les coordonnées, on ne peut pas faire autrement quand il s'agit de mouvement que d'avoir des coordonnées qui vous repèrent votre position par rapport au mât du navire ou par rapport au campanile de Venise, et puis il y a trois coordonnées d'espace. Bon. Eh bien, ces coordonnées, si vous en prenez une le long de la direction du navire qui s'éloigne, et puis deux autres perpendiculaires, la direction que je vais appeler X dans la direction du navire, eh bien, vous voyez que votre position par rapport au mât du navire, elle va s'écrire, je vais l'appeler prime, parce que ça a un rapport, enfin, je vais la primer avec l'indice prime, parce que ça a un rapport au deuxième référentiel, eh bien, c'est X prime égale X, votre coordonnée par rapport à la à Venise, moins VT, V étant la vitesse avec laquelle le navire avance, T étant le temps écoulé depuis le début du voyage. Bon, c'est une ce qui fait que vous vous éloignez de Venise, ou vous vous en rapprochez si jamais vous allez en sens inverse, mais que il faut, pour savoir quelle est votre position par rapport à Venise, il faut d'abord que vous sachiez quelle est la position du mât du navire par rapport à Venise, et puis ensuite vous avez, et ça c'est justement quelque chose qui est de la forme une vitesse multipliée par le temps de parcours, donc le VT, et puis il y a le X, etc. Bon, donc ça c'est ce qu'on appelle une transformation de coordonnées. Eh bien, les lois de Newton, F égale MA, etc., elles sont parfaitement invariantes par transformation de ces coordonnées. C'est-à-dire que quand A, c'est la dérivée de la coordonnée spatiale X par rapport au temps, eh bien, c'est la dérivée double, c'est-à-dire que c'est, en termes un peu mathématiques, D2X sur DT2. Or, si vous voyez bien que du coup le mouvement du bateau n'intervient pas, parce que il va rajouter une vitesse qui va être la vitesse du bateau, mais quand vous allez dériver cette vitesse qui est supposée constante au cours du temps par rapport au temps pour avoir l'accélération qui intervient dans la loi F égale MA, eh bien ça n'apparaît plus. Or, dans le cas des équations de Maxwell, équations très belles, très un peu compliquées, mais eh bien, quand on fait ce changement de coordonnées, on n'obtient pas des lois invariantes. Autrement dit, on n'obtient plus les mêmes équations. Alors ça posait un problème énorme, parce que ça voulait dire ou bien que il n'y avait pas d'unité de la physique, et de fait dans la tradition occidentale l'unité de la physique c'est quand même l'unité de la nature. La nature elle est quand même pensée par la tradition judéo-chrétienne qui a quand même régné en Occident pendant un grand nombre de siècles comme en somme Dieu ou la nature, c'est la même chose. Et donc à partir du moment où on est dans un régime de monothéisme et où on pense que si on ne veut pas parler de Dieu, eh bien on parlera de nature, mais que c'est la même chose, c'est-à-dire pas forcément quelque chose de créé, c'est toute la thèse de Spinoza, eh bien à ce moment-là, la physique, qui est la science de la nature, doit elle-même être une. Donc l'unité de la physique dont j'ai dit que c'était la principale préoccupation d'Einstein, en fait, ce n'était pas que d'Einstein, c'est absolument fondamental dans toute la pensée occidentale qui a produit la physique, qui s'est répandue ensuite dans le monde par des voies plus ou moins pacifiques. Mais ça, c'est un autre problème. Mais l'idée que la nature doit être et que la physique doivent avoir une certaine unité et qu'on n'ait pas une partie de la nature qui obéisse à certaines lois et une autre partie qui obéisse à certaines autres lois qui soient contradictoires entre elles, ça, c'est une chose impensable dans la tradition occidentale. Donc, dans la science qui en était issue. Et donc, les gens étaient très embarrassés. On ne pouvait pas abandonner la théorie, la mécanique, la physique était embarquée sur ce vaisseau-là, si je peux dire, déjà depuis trois siècles. On ne pouvait pas abandonner non plus l'électromagnétisme, théorie beaucoup plus récente, mais d'une efficacité redoutable. Comment faire? Et donc, c'est à ça que se sont attelés tous les gens de la génération précédant Einstein, c'est-à-dire les gens qui, tels Lorenz et Poincaré, ont travaillé entre dans les années 70, 80, 90, 1900. Et la chose était très difficile, la preuve, c'est qu'ils n'y sont pas arrivés, sauf justement en partie Poincaré, je vais dire pourquoi je dis en partie, en 1905, justement. Einstein, lui, il avait l'avantage de ne pas avoir travaillé pendant 30 ans selon cette voie qui faisait en fait de cette différence entre ce qui relève de la théorie de la matière et la théorie de la lumière, en faire un problème d'électromagnétisme. Il avait l'avantage, lui, de ne pas avoir travaillé pendant 30 ans dessus. On venait de le lui apprendre, et c'est vrai que quand on vient d'apprendre quelque chose, on a un esprit beaucoup plus critique, ou en tout cas plus frais pour critiquer, quand on a soi-même passé des heures et des heures à travailler avec un succès très mitigé sur ces choses-là. Donc, Lorenz et Poincaré, il voulait chercher le moyen de rendre les équations de Maxwell, donc la théorie électromagnétique, compatibles avec le principe de relativité. Einstein, ce n'était pas sa principale préoccupation. Comme je viens de le dire, et comme le montre cet article de mars 1905, c'était plutôt le fait qu'on ait deux théories qui, d'un point de vue théorique, apparaissent comme incompatibles, mais pas simplement sur le fait que la théorie électromagnétique n'était pas compatible avec le principe de relativité, mais aussi sur le fait que c'était une théorie du continu alors que l'autre était une théorie du discontinu. Il avait donc une vue plus fraîche sur les choses. Alors, j'en reviens à Lorenz et Poincaré. C'était très difficile mathématiquement de rendre la théorie électromagnétique compatible avec la théorie de la relativité. Cela dit, à force de d'avancer très lentement, d'abord Lorenz avait commencé par beaucoup simplifier les choses certains Einsteiniens et non des moindres, même je veux dire certains historiens des sciences. On arrive à penser que le pas fait en avant par Lorenz, en fait, a été quelque chose qui a apaisé la communauté scientifique de façon fausse, c'est-à-dire que ça a répondu à un certain nombre d'interrogations d'une façon qui n'était pas la bonne, mais qui a semblé la bonne, et par conséquent, ça a empêché de voir quelle était la véritable solution. Lorenz a établi tout de suite que il y avait qu'on pouvait diviser le monde en somme entre deux choses. D'une part des particules massives, etc. Bon, tout ça, rien de nouveau. Et d'autre part, un milieu qui était absolument nécessaire, je vais dire dans un instant, qu'on appelle l'éther, et qui était absolument nécessaire pour la théorie électromagnétique. Alors, pourquoi ? L'éther, c'était donc un milieu, alors, continu, lui, sauf qu'on ne savait pas, justement. Le problème, c'est que l'éther, on ne savait pas ce qu'il en était. Aucune mesure expérimentale n'avait pu mesurer ni sa dureté, ni sa compressibilité, ni sa densité, ni rien. C'était un milieu que, à la fin du siècle, vers les années 90-95, on considérait comme assez fantomatique, parce que, bien qu'on ait fait beaucoup de tentatives pour lui donner certains attributs physiques, on n'y était pas arrivé. Mais il était absolument nécessaire, parce que, chez Maxwell, évidemment, il y avait des ondes, mais c'était des ondes de vibration d'un certain milieu. À l'époque de Maxwell, on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait autre chose que de la matière, et que quand on avait des ondes, elles étaient pensées sur le mode de la propagation des ondes à la surface de l'eau, c'est-à-dire que c'est le milieu matériel de l'eau qui vibre et puis ça se propage de proche en proche. Eh bien, c'est comme ça qu'on pensait les ondes électromagnétiques et donc la lumière comme des vibrations de ce milieu hypothétique l'éther, qui se propageait de proche en proche, et c'était la théorie de ça qu'avait fait Maxwell. Mais comme l'éther était un milieu totalement sans identité, sans qualité, eh bien, il avait été obligé pour interpréter ces équations, je dis bien interpréter ces équations, et pas, c'était pas nécessaire dans ces équations. Comme l'a dit plus tard Hertz, les équations de Maxwell, l'électromagnétisme, c'est les équations de Maxwell, point. Mais c'est un point de vue qui ne pouvait pas apparaître à Maxwell, qui cherchait une interprétation en termes de fluide, de matière. Et alors, il avait produit un certain nombre de modèles, comme ça. C'est très anglais comme manière de faire. Il avait inventé plusieurs modèles équivalents, par analogie. Et d'ailleurs, on sait très bien que quand on a une analogie, on peut en tirer beaucoup. Justement, c'est l'avantage et l'inconvénient du raisonnement par analogie. Et cette analogie, il l'appelait « true analogy », parce que c'était une analogie mathématique. Elle se fondait sur le fait que ces équations avaient la même forme mathématique, sauf que ça ne traitait pas des mêmes grandeurs, que certaines équations de la mécanique. Simplement, là où il y avait une masse, il devait y avoir une self-induction, là où il y avait un courant, là où il y avait une vitesse, il y avait un courant électrique dans le cadre d'une vitesse pour les particules, un courant électrique dans la théorie électromagnétique, mais à part ça, les équations avaient la même forme. C'est un peu le même genre de raisonnement que celui d'Einstein s'apercevant que la variation d'entropie prend la même forme pour deux systèmes et qui ont un certain rapport, une certaine ressemblance. Et donc, il avait imaginé un tas de systèmes mécaniques qui toutes obéissaient aux mêmes équations, enfin, à la même forme d'équation que ces équations, et qui étaient des manières, des images, et il emploie beaucoup le mot image, et comme je vais le montrer dans un instant, la grande différence entre Einstein et les autres, c'est que le mot image n'apparaît pas chez lui, des images, mais toutes qui sont des images, pas des fantasmes, des images justifiées par des équations mathématiques. Bien. Alors, Poincaré et Lorentz, ils partaient de ça. Et Lorentz, donc, avait bien simplifié le travail en établissant une séparation entre l'éther et la matière. Donc, la matière se déplaçait dans l'éther, qui envahissait tout ce que la matière laissait d'espace à sa disposition, et devait donc se déplacer dans l'éther. Et par conséquent, ce déplacement devrait pouvoir être observable, malheureusement, et ça venait se rajouter aux impossibilités de dire quoi que ce soit sur l'éther, c'est la fameuse expérience de Michelson et Morley, il était impossible de mesurer la vitesse de déplacement de la Terre par rapport à l'éther, puisque c'est la première chose à laquelle on avait pensé. Au moins, il avait déblayé le terrain en séparant matière et éther, ce qui n'était pas le cas dans les premières années de leur recherche. Alors, tout ceci a abouti en 1905 à ce que Poincaré, qui était donc un très grand mathématicien et qui enseignait et causait de la physique, en juin 1905, alors c'est là que ces choses deviennent absolument bizarre. En juin 1905, exactement le 5 juin 1905, fait une communication à l'Académie des sciences de Paris, qui paraît tout de suite, parce que c'était une des spécialités de l'Académie des sciences, il devait avoir une imprimerie sur place, que à peine une communication était-elle faite, qu'elle était publiée. Donc, il publie une communication dans laquelle il explique qu'il a perfectionné la théorie de Lorentz, qu'il a repris certains des travaux de Lorentz, lequel avait démontré que par certaines transformations, j'ai parlé tout à l'heure de celles qu'on a x' égale x moins vt, il avait compliqué ce genre de rapport entre x', x et t, et il avait introduit aussi une contraction des longueurs dans le sens de propagation de la... Tout ça de façon totalement ad hoc pour pouvoir rendre les équations de Maxwell invariantes par une certaine transformation qui devait remplacer ces transformations qui étaient passées d'un référentiel à un autre en mouvement et qui nous sont si apparentes et si évidentes. Bon. Alors, Poincaré dit, j'ai rectifié le travail de M. Lorenz sur un certain nombre de points. Je propose d'appeler les transformations qu'avait proposées Lorenz et qu'il arrange un peu mieux transformation de Lorenz. Il démontre que ces transformations forment un groupe, au terme de quoi il établit comment on peut, il établit les transformations qui permettent de passer d'un référentiel à un autre et qui laissent les équations de Maxwell invariantes, dont il apparaît que le fameux x' égale x moins vt dont j'ai parlé tout à l'heure est un cas limite pour les petites vitesses. Bon. Alors, tout ça va se retrouver dans l'article qui sera publié en septembre d'Einstein, les transformations de Lorentz, etc. Mais, alors, il y a des gens pour dire que Einstein a simplement pompé, pour parler comme les gens qui passent les examens, sur Poincaré. Cela me semble peu probable si on regarde les dates. Il n'est pas impossible que Einstein ait lu la communication à l'Académie des sciences, parce que il était, depuis mars, il était en rapport avec les gens de Annalen der Physik, qui, eux, avaient tous les journaux du monde. Cela dit, la communication est du 5, le temps de fabriquer, il faut bien quand même 2 ou 3 jours, que ça arrive à Zurich, il faut encore quelques jours. D'ailleurs, ça devait passer pour lui par Berlin, puisque les journaux lui venaient de Berlin. Il est peu probable qu'avant le 20 juin, date à laquelle il a envoyé son manuscrit, il ait pu lire la communication de Poincaré. Cela dit, ça avait été précédé en 1903 par un article très long de Lorenz. Il avait lu tous les articles à caractère philosophique de Poincaré, il savait sur quoi Poincaré travaillait, mais qu'il ait eu connaissance de cette communication qui ensuite, en juillet, a fait l'objet d'un article plus approfondi, mais énorme, et assez compliqué du point de vue mathématique de Poincaré, c'est absolument impossible avant le 20 juin. Or, il avait écrit un article qui est beaucoup moins compliqué que celui de Poincaré, certes, mais qui, même matériellement, ne s'écrit pas du jour au lendemain. En fait, il a passé de janvier à juin à écrire cet article, en tout cas à le développer. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que Einstein a pompé sur Poincaré. Cela dit, ce n'est pas très étonnant qu'ils soient arrivés tous les deux au but, d'une certaine façon, alors que c'était un problème sur lequel tout le monde travaillait déjà depuis 20 ans. La question qu'il faut se poser, est-ce bien la même théorie ? Ce n'est pas parce qu'on aboutit aux mêmes équations que l'on a forcément la même théorie par derrière. Or, il y a beaucoup de choses qui font penser que... Il faut que je m'arrête dans combien de temps ? Qui font penser que ce n'est pas la même théorie. Et d'ailleurs, bon, c'est aussi un mystère de l'histoire des sciences, ni l'un ni l'autre ne s'est expliqué sur la théorie de l'autre. Bon, mais ce sont des êtres humains, après tout, ça ne devait pas leur plaire de penser qu'il n'était pas vraiment le seul. Dans la théorie de Lorenz, de Poincaré, il y a l'éther. Dans la théorie d'Einstein, il n'y a pas d'éther. Et ça, c'est un point fondamental. Poincaré était convaincu que l'éther, il l'avait été très tôt, il y a des écrits de 1880 dans lesquels il dit que l'éther, on en a besoin, mais il est probable que ça n'existe pas, c'est simplement quelque chose. Vous savez que c'était le champion du conventionnalisme, donc c'est une image, dit-il, comme les atomes d'ailleurs, dit-il, à l'époque les atomes n'étaient guère qu'une image, dont on arrivera à se passer un jour, que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, ça n'empêche que rien ne nous interdit de l'utiliser si ça nous convient. Et ça lui convenait parfaitement, parce que justement, comme il avait démontré qu'il y avait une structure de groupe dans toutes ces transformations, eh bien ce qu'il fait pour considérer deux référentiel en translation uniforme l'un par rapport à l'autre. Il dit, puisqu'il y a une structure de groupe, je considère le passage par ce référentiel privilégié qu'est l'éther, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Ça m'est égal, mais ça m'est commode. Et ensuite, retour au deuxième. Et comme le passage de là à là, c'est la même chose que le passage de là à là à là, eh bien, le tour est joué. Bon. Or, Einstein, lui, précisément parce qu'il avait trouvé que la lumière pouvait avoir d'autres caractères que d'être ondulatoire et donc quelque chose qui vibre dans un milieu dont on ne sait pas très bien ce que c'est, que ça pouvait être des grains d'énergie lancés à toute vitesse dans l'espace vide, eh bien, il avait éliminé l'éther. Et d'ailleurs, son article commence par un premier paragraphe où je n'ai pas le temps de dire de quoi il s'agit, mais au bout de 10 lignes, il dit, et on verra que dans tout ceci, on n'a pas besoin de l'éther, donc l'éther n'existe pas. Et de fait, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin aussi parce que, justement, il a parfaitement intégré cette nouvelle tendance que représente la mécanique statistique et qui vient d'utiliser pour l'article précédent, qui est avoir le discontinu sous l'apparence du continu, car la mécanique statistique qui redonne la thermodynamique, où les fonctions sont parfaitement continues, c'est aussi une manière, avec l'aide des méthodes statistiques, de passer du discontinu au continu. Et donc, bien qu'ensuite il se soit beaucoup élevé contre la théorie quantique, qui n'était pas de son goût, c'est lui qui l'a mis sur les rails, et en tout cas, quand il avait 26 ans, il était plutôt du côté des gens qui allaient regarder du discontinu que du côté du continu. Lorentz et Poincaré, eux, étaient en plein dans le continu. Ils régnaient même à l'époque une vision du monde qu'on appelait le tout électromagnétique, qui tendait à penser, et s'était présenté, et ça l'était d'ailleurs, comme une vision révolutionnaire, que plutôt que d'essayer d'avoir des modèles mécaniques de quelque chose qui était ondulatoire, la lumière, eh bien, on ferait mieux de trouver des modèles ondulatoires des atomes ou des particules. C'est-à-dire qu'on en était venu à penser que, c'est ça le tout électromagnétique, que les électrons, donc, qui avaient été découverts dans les années 90, étaient des concentrations d'énergie électromagnétique. Et c'est pourquoi l'article de Poincaré s'appelle Sur la dynamique de l'électron. C'était avec l'idée que cette concentration d'énergie, dont on ne savait pas très bien comment elle était, mais d'énergie électromagnétique dont on ne pouvait écrire les équations mathématiques que dans le référentiel de l'éther, etc., eh bien, il allait en faire une théorie unifiée, lui aussi, et chercher l'unification par le continu, alors que Einstein, finalement, a trouvé l'unification sur le modèle, plus exactement, de la mécanique statistique vis-à-vis de la théorie de la thermodynamique. Donc, en ceci, il était comme un jeune homme qui découvre tout ce qu'on vient de lui apprendre, comme n'était pas d'ailleurs, malheureusement pas, Poincaré ni Lorentz. Et Poincaré, jusqu'à la fin de sa vie, il est mort de façon prématurée en 1912. Il avait 58 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, jusqu'à en 1912, n'a pas compris ce qu'il appelait la théorie de M. Planck, c'est-à-dire donc l'introduction de la discontinuité sur un geste désespéré qu'avait produit Planck, et encore moins la théorie d'Einstein qu'il considère comme étant exactement le contraire de ce qu'il faut faire. La théorie, je veux dire, de l'article de mars 1905. Et de fait, quand on regarde un peu les publications de Poincaré et les cours qu'il a professés, c'est curieux, mais c'est en même temps tout à fait normal, il ne s'est pas tellement intéressé à la thermodynamique et encore moins à la mécanique statistique. Et c'est là que je dirais que le fait d'être allemand et français a une importance. Je terminerai juste là-dessus. Alors, évidemment, ça a une importance parce qu'à l'époque, les gens se regardaient en chien de faïence. Mais je voudrais dire des choses plus intéressantes et plus agréables. De fait, beaucoup de choses, quand on les pense en allemand, n'ont pas la même couleur que quand on les pense en français. Et en particulier, je n'ai pas eu le temps d'en parler, et c'est ma faute, évidemment, je suis arrivée en retard, J'ai dit que la première différence, c'était l'absence d'éther chez Einstein et la présence absolument indispensable de l'éther, même si, peu importe qu'il existe ou pas, chez Poincaré. La deuxième différence, elle porte sur le statut des principes. Pour Poincaré, un principe, et c'est tout à fait dans la tradition de quand on regarde l'évolution du sens du mot principe depuis principium en latin jusqu'à en passant par les principes chez Descartes, etc., jusqu'à la manière dont les mathématiciens et les physiciens en parlaient en France à la fin du XIXe siècle, eh bien pour lui, un principe, c'est quelque chose qui a été c'est un fait expérimental qui fait tellement peu. Qui est tellement bien vérifié qu'on peut l'ériger en principe. Et ça, c'est tout à fait le contraire de la manière dont en Allemagne, parce que ça, on appelait ça Prinzip, et que Prinzip en allemand, ça ne fait pas référence tellement à la même, ça ne fait pas la référence à la même chose, je vais en dire deux mots, que en français. Pour lui, pour Einstein et pour Boltzmann, qui était son maître à penser, eh bien, un principe, c'est quelque chose de fondateur, c'est quelque chose qu'on pose au départ et à partir duquel tout découle. C'est en allemand, par rapport au français, d'une certaine façon, il y a une confusion entre principe, qui veut dire commencement, et ça, c'est la manière dont c'est plutôt cette ligne-là que les physiciens et mathématiciens français ont suivi, et en allemand vient se rajouter là-dessus une confusion avec, un surplus de sens, qui est le même que celui de Grundsatz. Et Grundsatz, c'est un énoncé, Grund, au fond, fondamental, sur lequel on bâtit une théorie. Et ça n'a absolument pas besoin d'être quelque chose dont l'origine est empirique. D'ailleurs, les principes chez Poincaré, ils n'étaient de nature empirique que pour la physique, parce que pour les mathématiques, ces principes n'étaient évidemment pas de nature empirique. Alors, tout ça, c'est une histoire entre la France, la langue anglaise, et la langue allemande et la langue française, qui a aussi à voir, mais malheureusement, je ne peux être qu'indicative là-dessus, avec la traduction en français de Kant. Le mot principe dans les traductions de Kant recouvre 6 concepts différents, parfaitement bien distingués chez Kant, dont principe, Grundsatz, principium, puisque l'allemand utilise le latin assez couramment, principium, il y a aussi Ausgang, quelque chose, enfin bref, tout ça a été traduit par un seul et même mot, principe, en français. Si bien que là, il y a un principe pour un Allemand n'est pas un principe pour un Français. Et ça, la différence se marque de façon éclatante dans la manière dont Einstein et Poincaré ont considéré le principe de relativité. Pour l'un, c'est un quelque chose que l'on érige au statut de principe, donc ça devient mathématique d'une certaine façon. Pour l'autre, c'est un point de départ. D'où on fait découler des lois. Et à la suite d'Einstein, qui a quand même beaucoup modifié le cours de la physique dans les 100 dernières années, c'est aussi la manière dont, à l'heure actuelle, la physique entend le mot principe, qu'elle d'ailleurs elle dit principle parce qu'elle parle américain, et que ceci, ça vient justement. C'est très très amusant, enfin c'est pas drôle, c'était pas drôle pour eux, de tous ces Allemands juifs en général qui sont partis d'Allemagne en 1933, qui en général ont finalement abouti, comme Einstein d'ailleurs, aux États-Unis, où ils ont fait le bonheur et la gloire de la science américaine, qui sans eux n'existerait pas, ne serait pas ce qu'elle est devenue. Et du coup, en anglais, ou plus exactement en américain, principle est devenu, a pris le même sens que le principe en allemand, et un sens différent de celui qu'il a en français. Jamais les Principia de Newton seraient traduits « principles ». On dit « principia », parce que justement, il faut faire la différence entre ce qui est le commencement et puis ce qui est en somme un commandement, selon un jeu de mots qui dit qu'un principe, c'est à la fois, mais c'est comme ça dans l'origine grecque, un commencement et un commandement. C'est un commandement en ceci que tout en découle, et c'est un commencement aussi en ceci que c'est le début. Mais ce n'est pas vu de la même façon. Voilà, je vais m'arrêter là en vous demandant encore de m'expliquer.
Françoise Balibar, merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. On va être obligé d'en prendre que deux parce qu'après nous devons rendre l'amphithéâtre. Mais déjà, j'en ai une là-bas. Mais dès qu'il y a un micro qui arrive, j'aurai un micro pour quelqu'un là-haut, s'il vous plaît. Et après, nous en prendrons une dernière. Non, plus haut. On vous montre la personne. Voilà, monsieur, si vous, merci de vous lever. Merci.
Bonsoir. Alors, merci pour votre exposé. Vous nous avez raconté une fable merveilleuse sur l'histoire d'Einstein. Alors moi, je voudrais poser une question. Donc cette année, on a eu un raz-de-marée médiatique sur la personne d'Einstein. On a vu que c'est un génie, sorti de nulle part, qui, sans aucun soutien, a réussi à s'imposer à toute la science. Oui, pardon ?
Est-ce que vous pouvez mettre votre micro un peu plus loin parce que j'en entends pas.
Excusez-moi.
Bien.
Ouais. Alors, comment ça se fait ? Alors, je ne vais pas exposer les points noirs dont j'aimerais bien parler qui entachent la carrière d'Einstein, mais comment ça se fait que très rarement dans les exposés publics, il soit mentionné dans les conférences ?
Comment se fait-il que
Dans les conférences publiques de cette année, qui est dédiée en partie à Einstein, on parle très peu des nombreux points noirs qui entachent sa carrière scientifique. Et on le présente unanimement comme un génie universel, alors qu'il y a quand même certains points qu'il faudrait présenter.
Oh, mais je peux vous en parler pendant des heures, mais malheureusement, je suis arrivée en retard. Je peux vous en parler pendant des... Vous m'entendez ? Oui. Oui. Je peux vous en parler pendant des heures, parce que... Ce que je trouve de bien chez Einstein, c'est qu'il est tout aussi grand par ce sur quoi il s'est trompé et par la manière dont il s'est trompé que ce sur quoi il a réussi. Ce sur quoi il a réussi, tout le monde le connaît, la relativité, ensuite la relativité générale, etc. C'est un monument de la pensée humaine. Mais ce qu'il y a de bien avec Einstein, il le dit d'ailleurs lui-même en plaisantant, c'est qu'il disait tout ce qui lui passait par la tête. Il l'écrivait même, ce qui l'obligeait l'année suivante, ou même à 2 mois d'intervalle, de faire des rectifications. Et il le faisait de façon sans aucune difficulté. Et je trouve, ayant vécu moi dans une période issue de 1960 à maintenant, où se tromper... C'était comme si on était condamné à mort. Je trouve que c'est assez salutaire de savoir ça. Alors, je n'aurai que deux exemples des endroits. Si c'est, je réponds à votre question, là. Deux exemples de fausses opinions, ou de fausses, c'est même pas de l'opinion, de fausses sciences. Enfin, non, parce que ça avait un autre signification. D'erreurs d'Einstein. D'abord, il y a toute cette histoire sur la mécanique quantique. On l'a présenté en général, c'est comme ça que moi on me l'a appris quand j'ai commencé à en entendre parler, comme Einstein, il était devenu gâteux, les autres caracolaient devant, de façon obsessionnelle pour un déterminisme à l'ancienne, c'est-à-dire celui de la place, ou à partir des positions et des vitesses de toutes les particules du monde, on doit pouvoir prévenir l'avenir. C'est ce qu'a dit Laplace à Napoléon. Bon, c'est vrai en mécanique classique. Ça devient totalement sans fondement en théorie quantique à cause justement des relations de Heisenberg qui interdisent de connaître de façon simultanée de façon précise, indépendamment des questions de précision expérimentale. Il y a fondamentalement, théoriquement, une interdiction de déterminer à la fois la position et la vitesse d'une particule à un instant donné. À partir de ce moment-là, les prémices du déterminisme à l'ancienne, à la place, tombent totalement, puisqu'il faut connaître à la fois pour chaque particule, pour toutes les particules du monde, même à supposer que ça soit possible, la vitesse et la position. Donc, ça tombe à l'eau. Et la manière dont on l'a présenté pendant longtemps, Einstein s'est agrippé à ça et n'a jamais voulu en démordre. Bon. On sait bien que l'équation de Schrödinger est déterministe, parce qu'elle ne donne pas n'importe quoi, que tout ça est parfaitement déterminé. C'est pas parce qu'on a 5 résultats de mesure que ces 5 résultats ne sont pas ces résultats ne sont pas pour autant parfaitement déterminés, et par conséquent, c'est la mécanique quantique dans sa forme, en tout cas la plus élémentaire, est parfaitement déterministe. Et donc, pourquoi Einstein ne s'est pas avisé de ça tout seul? Et bon, il n'a cessé de provoquer ses jeunes collègues en disant il y a ça qui ne me plaît pas, etc. Et parmi les objections, il y en a une qu'il a formulée 2 ans après son arrivée aux États-Unis, qui, selon lui, a été mal formulée parce que c'est paru dans un journal américain et par conséquent, ça a été écrit en anglais. En collaboration avec 2 autres personnages qui s'appellent Podolsky et Rosen, d'où l'article EPR, Einstein, Podolsky et Rosen, article écrit en anglais et donc qui, au dire d'Einstein, ne reflète qu'à moitié dans l'anglais ce qu'ils avaient discuté en allemand, dans lequel il émettait une objection à la théorie quantique qu'on appelle l'incomplétude. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de ce qu'est cette incomplétude, mais là aussi, Bohr est monté au créneau pour dire, le pauvre Einstein, avec tout le respect que je lui dois, vraiment, il n'a rien compris à rien. Et dans les années 70, de 60 à 80 du point de vue théorique, en 80 avec les expériences d'aspect et d'autres expériences, ont prouvé que l'objection d'Einstein était tout à fait recevable et que de fait c'était comme ça qu'était la théorie quantique, et en particulier qu'elle n'est pas elle est non locale et que dans la théorie quantique, et le monde est comme ça jusqu'à preuve du contraire, et bien 2 particules qui ont interagi à un certain instant et qui ensuite s'éloignent l'une de l'autre et sont à des années-lumière l'une de l'autre, et bien il se produit sur ces 2 particules un phénomène qu'Einstein avait bien vu comme étant une conséquence de la théorie quantique, qui est que si on fait une mesure sur l'une de ces particules, la mesure de la même grandeur physique sur l'autre donnera un résultat qui est complètement déterminé par la mesure faite sur l'une. Autrement dit, il y a une espèce d'interaction, même si qui va plus vite que la lumière et tout ce qu'on veut, ou dit autrement, une espèce de mémoire de leur interaction qui se maintient. Et ça, ce qu'on appelle la propriété de non-localité, c'est là-dessus que se sont produits depuis 1990, tous les développements les plus intéressants du point de vue théorique de la mécanique quantique, c'est l'intrication, la non-séparabilité, etc. Et c'est ce sur quoi travaillent maintenant les expérimentateurs. Donc, même Bohr pensait qu'Einstein se trompait, et en fait, il ne se trompait pas, puisqu'il avait soulevé le bon lièvre. Autre exemple, c'est celui de la constante cosmologique, car en 1919, s'étant aperçu qu'avec sa théorie de la relativité générale, il avait fait une théorie, en fait, de l'univers, Einstein a fait changer le statut de la cosmologie. Jusqu'à présent, c'était des idées sur la manière dont est fait le cosmos. C'est devenu une théorie physique, la relativité générale, en tant que théorie de la gravitation. Et dans les équations telles qu'elles sont, si on les pousse à leur extrême, on ne peut pas empêcher de penser que parmi les solutions possibles, il y en a une où l'univers a commencé à un moment donné. il y a eu un début de l'univers, la question de la fin est plus moins nette. Et ça, Einstein, pour des raisons idéologiques et anti-religieuses, parce qu'il croyait comme il n'était pas, il croyait à une certaine transcendance à la Spinoza, comme je l'ai dit, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire la nature. Mais ce Dieu ou cette nature, pour rien au monde, il aurait aimé la penser comme étant créée. Et eh bien non, manque de chance, il a été obligé d'admettre. Alors pour ça justement, pour empêcher cette création, il a rajouté une constante dans ses équations. C'est des choses qui se font assez souvent en physique. On a si on ne fait pas ça, on a un résultat manifestement absurde, par exemple quelque chose qui fiche le camp à l'infini. Alors on élimine la solution à l'infini. Il a fait ça une fois de trop, quoi. Et puis après il s'est aperçu, et maintenant le terme cosmologique d'Einstein, après avoir été abandonné par lui-même d'ailleurs, parce qu'il a bien compris qu'il avait fait un pas de clair, et bien de nouveau est dans le circuit.
Une dernière question, rapide la question, merci. Oui, levez-vous, ça sera plus simple, voilà.
Oui, bonjour, vous m'entendez? Donc ma question c'était à propos de, comme vous avez commencé à dire, Einstein ne pensait pas les mathématiques en termes d'image. Vous avez commencé à parler de ça, et ça avait l'air d'avoir de l'importance pour vous, alors j'avais deux questions à ce sujet. Est-ce que vous pensez que le fait de ne pas penser avec des images, ne pas penser les mathématiques avec des images, ça relève d'une intransigeance vis-à-vis des mathématiques ou d'une sorte de purisme? Donc première question. Et deuxième, d'où vient l'imagination qu'on attribue à Einstein? D'où vient sa façon originale de penser la physique si c'est pas à travers les images?
La dernière phrase.
D'où vient le...
Lui-même, j'ai pas entendu non plus.
D'où vient la spécificité d'Einstein de voir la physique si c'est pas par les images qui sont faites?
Oui, alors, bon, j'entends ça, il aurait fallu que je développe en un sens bien particulier. Par référence justement à la tradition inaugurée par Maxwell, qui consistait à doubler en somme toute théorie d'interprétation nécessairement imagée puisqu'elles étaient mécaniques et que la mécanique ça se voit, on voit des particules, etc. Bon. Mais comme je l'ai dit aussi, pour Maxwell et comme pour n'importe quel physicien, ces images ne sont pas n'importe lesquelles, c'est des systèmes physiques qu'on peut se représenter qui obéissent à des lois analogues au système physique que l'on veut penser et qu'on a du mal à penser parce qu'on est en train de le découvrir. Poincaré, lui, continue à penser comme ça en termes d'image. D'ailleurs, Poincaré, c'est la prolongation de Maxwell, justement. Il veut parfaire l'électromagnétisme de Maxwell qui n'est pas compatible avec le principe de relativité, donc c'est pas très étonnant. Einstein, lui, d'une part, on ne trouve plus aucune trace chez lui de ce genre de choses. Et d'autre part, ce que l'on trouve chez lui, et qu'il a fait longtemps passer pour un réaliste naïf, c'est presque une espèce de conviction naïve que ce dont il parle existe. C'est-à-dire que quand il parle d'une particule, ben, elle existe. Et c'est aussi ce qui lui a beaucoup, cette espèce de réalisme naïf, qui a l'avantage, de mon point de vue, de ne pas faire le détour par les images qui sont quand même trompeuses, en tout cas on ne peut les utiliser qu'à condition de ne savoir jusqu'à quel point il faut ne pas aller trop loin. Ce réalisme naïf, c'est aussi ce qui l'a empêché de penser la mécanique quantique, parce que il n'était pas le seul d'ailleurs, ça a été un des grands problèmes des fondateurs de la mécanique quantique, c'était la perte de ce qu'ils appelaient en allemand, puisque tout ça se passait en allemand, Anschaulichkeit. Alors Kait, ça veut dire, c'est ce qui donne le substantif. Anschaulich, c'est ce qui est schauen, visible, ce que l'on peut se représenter. Et le fait qu'on ne puisse pas se représenter un électron, puisque comme chacun sait maintenant, il est ni là ni ailleurs, mais partout à la fois, etc., que c'est ni une onde ni une particule, ça les a beaucoup gênés. Ils ont trouvé des moyens de vivre avec cette gêne, moyens qui n'ont jamais plu à Einstein. Mais on peut penser que là aussi, grandeur et faiblesse se mêlent. Ne pas avoir recours aux images, ça lui permettait de rester dans les équations telles qu'elles sont. Mais c'est aussi ce qui l'empêchait de penser qu'on peut se passer d'images, parce que pour lui, c'était qu'on a besoin d'images pour pouvoir ensuite les rejeter. Vous voyez ? Bon, c'est un point qui m'est apparu hier, à vrai dire, donc je ne suis pas tout à fait au point encore là-dessus.